20. Jean Dibal était satisfait. Sa déclaration avait porté. Le premier orateur ne s'y était pas attendu et s'était donc trouvé pris au dépourvu. Dès cet instant, la balle était dans le camp de Jean Dibal. S'il avait gardé le moindre doute là-dessus, il disparut à la remarque suivante de Chandès.
« Tout cela a-t-il un rapport avec votre assertion que le plan Seldon est dénué de sens ?»
Jean Dibal décida de jouer l'assurance totale et poursuivit avec un didactisme qui interdisait au premier orateur de se ressaisir. Premier orateur. C'est devenu un article de foi que Prim Palver est l'homme qui a su remettre le plan sur la voie après les errances du siècle des déviations. Mais étudiez le premier radiant et vous verrez que les déviations n'ont disparu que 20 ans au moins après sa mort, et que plus aucune n'a reparu depuis. Tout le crédit pourrait en revenir aux premiers orateurs qui succédèrent à Palver, mais la chose est improbable.
Improbable ?
D'accord, aucun d'entre nous n'a été un Palver, mais pourquoi improbable ? Me permettrez-vous d'en faire la démonstration, premier orateur ? Avec l'aide des mathématiques de la psychohistoire, je peux clairement démontrer que les chances d'une disparition totale des déviations sont bien trop microscopiques pour avoir été prises en compte par la seconde fondation dans le choix de ses actions. Mais inutile de me laisser vous l'expliquer si vous n'avez pas le temps ou le désir de me consacrer la demi-heure nécessaire à ma démonstration. Je peux à la place demander la convocation plénière de la table des orateurs et l'effectuer à ce moment-là. Mais cela se traduirait par une perte de temps et une controverse bien inutile.
Oui, et pour moi le risque éventuel de perdre la face. Faites-moi donc votre démonstration tout de suite, mais avant, un mot d'avertissement tout de même.
Le premier orateur faisait un effort héroïque pour se ressaisir.
Si jamais ce que vous allez me présenter est sans valeur, sachez que je ne l'oublierai pas.
Si cela se révèle sans valeur, dit Jean Dibal, avec un orgueil naturel qui fit taire son interlocuteur, vous aurez sur le champ ma démission. Cela lui prit en fait considérablement plus d'une demi-heure, car le premier orateur tint à discuter ses équations avec une ardeur presque sauvage. Jean Dibal refit une partie de son retard en employant avec habileté son micro-radiant. L'appareil, qui pouvait cadrer holographiquement n'importe quelle portion du vaste plan sans le support d'un mur ni l'aide d'une console, n'était en usage que depuis une dizaine d'années, et le premier orateur n'en avait jamais appris le maniement. Jean Dibal le savait. Et le premier orateur savait qu'il le savait. Jean Dibal coinça l'appareil avec le pouce et pianota sur les commandes avec ses quatre doigts, manipulant délibérément l'objet comme s'il s'était agi d'un instrument de musique. À vrai dire, il avait même rédigé un bref article sur les analogies entre les deux. Les équations que Jean Dibal présentait et trouvait avec une aisance emplie d'assurance défilaient en sinuant d'avant en arrière au rythme de ses commentaires. Il pouvait obtenir des définitions si nécessaire, bâtir des axiomes et générer des graphes sur deux comme sur trois axes, sans parler des projections de relations pluridimensionnelles. Le commentaire de Jean Dibal était clair et incisif, et le premier orateur abandonna bientôt la partie. Il s'avoua vaincu et dit
« Je n'ai pas souvenance d'avoir jamais vu une analyse de cette nature. De qui est-elle l'œuvre ?»«
Elle est de moi, premier orateur. J'ai déjà publié les théorèmes de base qu'elle met en jeu. » »«
Très habile, orateur Jean Dibal. Une chose de cet ordre peut vous mettre sur les rangs pour le poste de premier orateur si jamais je décidais de démissionner ou de prendre ma retraite. »
Je n'y songeais aucunement, mais, comme vous ne me croirez certainement pas, je retire cette dernière remarque. J'y ai effectivement songé. Et je compte bien devenir premier orateur, puisque quiconque accède au poste doit nécessairement suivre une procédure que je suis le seul à voir avec clarté.
Oui, dit le premier orateur, toute modestie mal placée peut se révéler fort dangereuse. Mais quelle procédure? Peut-être l'actuel premier orateur est-il également susceptible de la suivre. Je suis peut-être trop âgé pour avoir accompli la même démarche créative que vous, mais pas encore au point d'être incapable de suivre vos directives. C'était une reddition prononcée non sans élégance, et Jean Dibal, à sa surprise, sentit naître en lui une bouffée d'estime pour ce vieil homme, tout en se rendant compte que telle avait bien été précisément l'intention de son interlocuteur. Merci, premier orateur, car j'aurai sérieusement besoin de votre aide. Je ne puis espérer influencer la table sans votre direction éclairée. Politesse pour politesse. Je suppose donc que ma démonstration vous a fait voir qu'il est impensable que notre politique ait seule suffi à rectifier les erreurs du siècle des déviations, tout comme il est impossible qu'elle ait fait disparaître toutes les déviations depuis lors.
Cela me semble clair. Si vos équations sont correctes, alors, pour que le plan se soit réalisé comme il s'est réalisé et qu'il fonctionne aussi parfaitement qu'il me semble fonctionner, il faudrait que nous soyons capables de prédire les réactions de petits groupes de personnes, voire d'individus isolés, avec un certain degré de certitude.
Absolument. Et puisque les équations de la psychohistoire ne le permettent pas, les déviations n'auraient pas dû disparaître. Et qui plus est, elles auraient dû se manifester à nouveau. Vous voyez à présent ce que je voulais dire en affirmant tout à l'heure que le principal défaut du plan Seldon était précisément son absence de défaut.
Donc, soit le plan Seldon possède effectivement des déviations, soit il y a quelque chose qui cloche dans vos équations. Puisque je dois bien admettre que le plan Seldon n'a pas présenté la moindre déviation depuis un siècle et plus, il s'ensuit qu'il y a donc bien quelque chose qui cloche dans vos équations, sauf que je n'ai pu y déceler la moindre erreur de calcul ou de raisonnement.
Vous avez tort d'exclure une troisième éventualité. Il est tout à fait possible que le plan Seldon ne soit affecté d'aucune déviation, sans pour autant que mes équations soient fausses, en prédisant que la chose est impossible.
Je n'arrive pas à voir... Quelle est cette troisième éventualité?
Eh bien, supposez que le plan Seldon soit contrôlé grâce à une méthode psychohistorique si avancée qu'elle puisse prédire les réactions de petits groupes humains, voire d'individus isolés, méthode que nous autres à la Seconde Fondation ne maîtrisons pas. Alors, et alors seulement, mes équations prédiraient avec justesse que le plan Seldon ne doit subir aucune déviation. L'espace d'un instant, un instant selon les critères de la Seconde Fondation, le premier orateur s'abstint de répondre, puis il dit enfin «
Il n'existe pas, à ma connaissance, et à la vôtre, je le sais par votre attitude, de telles méthodes psychohistoriques de pointe. Si vous et moi n'en connaissons aucune,
les chances qu'un autre orateur, a fortiori qu'un groupe d'orateurs quelconque, et pu mettre au point une telle micro-psychohistoire, appelons-la ainsi, à l'insu du reste de la table, me semble totalement infinitésimale. Vous n'êtes pas d'accord avec moi?
Je suis d'accord avec vous.
Donc, soit votre analyse est fausse, soit la micro-psychohistoire est aux mains de quelques groupes extérieurs, à la Seconde Fondation?
Tout juste. Premier orateur.
C'est le dernier terme de l'alternative qui doit être correct.
Pouvez-vous me démontrer la véracité d'une telle assertion?
Je ne peux pas de manière concrète. Mais si vous considérez, tenez, a-t-il déjà existé un individu capable d'affecter le plan Seldon par son influence personnelle sur les individus?
Je suppose que vous faites allusion au mulet, précisément. Le mulet ne put qu'avoir une influence destructrice. Le problème ici est que le plan Seldon fonctionne trop bien, considérablement plus près de la perfection que ne l'autoriseraient vos équations. Il nous faut donc imaginer un anti-mulet, quelqu'un capable de doubler le plan comme l'a fait le mulet jadis, mais qui agirait pour des motifs diamétralement opposés, se substituant au plan non plus pour le détruire, mais pour le perfectionner.
Exactement. Premier orateur. J'aurais voulu avoir songé moi-même à cette formulation. Qu'était le mulet? Un mutant, certes, mais d'où venait-il? Comment est-il apparu? Nul ne le sait au juste. Ne pourrait-il pas en exister d'autres?
Apparemment non. La seule chose connue avec certitude au sujet du personnage est qu'il était stérile, d'où son nom. Ou bien, pensez-vous que ce soit un mythe?
Je ne songeais pas à d'éventuels descendants du mulet. Ne pourrait-il pas se faire que le mulet ait été un élément aberrant issu d'un groupe appréciable, ou devenu aujourd'hui appréciable, d'individus dotés de pouvoirs analogues aux siens et qui, pour quelque raison qui leur est propre, ne chercheraient pas à bouleverser le plan Seldon mais à le soutenir?
Pourquoi, par la galaxie, faudrait-il qu'ils le soutiennent?
Et pourquoi le soutenons-nous nous-mêmes? Nous projetons d'instaurer un second empire dans lequel nous, ou plutôt nos descendants spirituels, auront le pouvoir. Si quelque autre groupe soutient le plan avec encore plus d'efficacité que nous, il ne peut envisager de nous abandonner le processus de prise de décision. Ce sont eux qui finiront par prendre la direction des choses.
Oui,
mais à quelle fin? Est-ce que nous ne devrions pas essayer de découvrir vers quel genre de second empire ils cherchent à nous acheminer?
Et que proposez-vous pour le découvrir?
Eh bien, pourquoi le maire de Terminus a-t-elle exilé Golan Trevis? Ce faisant, elle laisse un individu potentiellement dangereux se déplacer librement dans toute la galaxie. Qu'elle l'ait fait par pur motif humanitaire, voilà ce que je ne peux pas croire. Historiquement, les dirigeants de la première fondation ont toujours agi avec réalisme, ce qui signifie en général sans la moindre considération de moralité. L'un de leurs héros, Salvor Hardin, prenait même contre la moralité, en fait. Non. Je crois que le maire a agi poussé par des agents des anti-mulets, pour reprendre votre expression. Je crois que Trevis a été recruté par ces gens-là et qu'il est le fer de lance du danger qui nous menace. Un danger mortel. Alors le premier orateur dit
« Par Seldon, vous pourriez bien avoir raison. Mais comment allons-nous en convaincre la table ?»
Premier orateur, vous sous-estimez votre réputation.